SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Vous êtes avec SBS French.
Europa Voice numéro 72 déjà, et surtout dernier numéro de l'année 2020. Quelle année nous avons pu avoir, en tout cas du niveau européen. Ça nous a donné beaucoup de sources. Et comme à chaque épisode, j'accueille Nathanaël Bloch avec nous. Salut Nathanaël.
Salut Christophe.
2020, quand même une année chargée en émotions, chargée en sujets, à la fois pour vous, pour moi, mais pour l'Europe également.
Oui, une année 2020 extrêmement chargée en Europe, placée sous le signe, bien sûr, de la gestion du coronavirus, du Covid-19, mais également de notre fil directeur, de notre ligne rouge, de notre Madeleine de Proust, le Brexit, Christophe.
Eh ben ouais, et devinez quoi, on va parler du Brexit, on va surtout même commencer avec le Brexit, on va parler du Conseil européen également après, puis on parlera également du coronavirus. Mais là, le Brexit, on arrive là, c'est vraiment money time, hein, si on pouvait dire. En tout cas, c'était la date qui était fixée, 31 décembre, ça devait être vraiment une date butoir pour le Brexit et pour les accords entre l'Europe et le Royaume-Uni. J'ai une question pour vous, Nathanaël. On en est où ? Parce que ça a l'air assez problématique tout ça.
Alors, le point positif, Christophe, parce qu'il faut toujours voir le côté positif des choses, always look at the bright side of life, comme disent nos amis anglais, c'est qu'il y a encore des discussions, c'est-à-dire que les deux parties continuent de se parler. Ça, c'est le point positif. Christophe, le point plus négatif, c'est qu'on a l'impression que là, mi-décembre, on est finalement à peu près au même endroit, à la même position qu'on était il y a quelques mois. Les derniers faits, Christophe, c'est que jeudi 17 décembre, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le Premier ministre britannique, Boris Johnson, se sont parlé. Et que pour l'instant, il semblerait qu'il serait toujours extrêmement difficile de combler les divergences entre les deux parties. Un point sur les négociations a été fait entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Alors évidemment, il y a de la langue diplomatique, c'est-à-dire que de part et d'autre, on salue les progrès importants qui ont été faits sur de nombreux sujets. Mais encore une fois, il y a des divergences et il y a un point central qui n'est pas résolu entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, c'est la question de la pêche. Alors quand on dit la pêche, ça peut paraître assez anecdotique, mais en fait derrière la question de la pêche, il y a des questions de souveraineté, d'accès aux eaux d'une partie ou d'une autre partie, des questions évidemment économiques derrière. Donc vous voyez, on finalement c'est derrière la pêche et derrière ce point qui peut paraître encore une fois assez mineur, assez anecdotique pour le commun des mortels, en fait derrière cette question-là, eh bien encore il y a beaucoup d'enjeux qui ne sont pas réglés entre le Royaume-Uni et l'Union européenne.
Alors, on sait que les Britanniques aiment leur fish and chips, c'est sûr, mais ce n'est pas que pour ça. C'est certainement pas que pour le fish and chips, et vous venez de le dire. Cette souveraineté territoriale et dans les eaux territoriales, elle est ultra importante, surtout dès le début, dans le début de cette négociation. Elle est importante pour les Britanniques, mais elle est aussi importante pour les Européens et pour les Français, parce qu'on sent bien que la France est quand même très influente au niveau européen sur les décisions à prendre ou à ne pas prendre, justement, avec les Britanniques.
Alors, sur cette question, Christophe, de la France et de la position de la France, il faut saluer quelque chose, c'est que depuis quelques mois, il y a une véritable unité européenne, drivée, j'allais dire, unité par la France et par de manière plus générale le couple franco-allemand, mais il y a une position à la fois de fermeté et d'unité européenne qui est à saluer. Alors effectivement, hein, derrière cette question la pêche, juste pour développer un peu, c'est des enjeux comme le fait que le Royaume-Uni lui aimerait récupérer évidemment le contrôle de ses eaux, hein, puisque ça va avec ce projet de souveraineté, finalement ça va avec ce projet de sortir l'Union européenne, mais ça veut dire que théoriquement, Christophe, derrière cette récupération du contrôle de ses eaux, l'accès aux pêcheurs européens sera interdit. Et donc, c'est ça, en fait, qui a des conséquences extrêmement importantes, parce que si les eaux sont interdites, si après elles sont de nouveau dans la balance des négociations, ça veut dire que s'il n'y a pas d'accord, ce sont pour l'instant les règles les plus contraignantes en termes de commerce, en termes de réciprocité, les règles de l'Organisation mondiale du commerce qui vont s'appliquer. Et donc, alors, vous voyez, on va créer en fait finalement une relation économique, une relation de trade entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, comme on la créerait avec n'importe quelle entité avec laquelle il n'y a aucun accord. Et donc, forcément, ça a des conséquences économiques, sociales et environnementales pour un ensemble d'acteurs collatéraux à la simple relation bilatérale Union européenne Royaume-Uni. Et puis, Christophe, ce qu'il faut dire aussi, c'est que pour l'instant, on sait aussi qu'il y a une date butoir qui est ce 31 décembre 2020 et que pour l'instant, d'un côté ou de l'autre, on n'envisage pas de prolonger cette période de transition. C'est-à-dire qu'on est prêt, notamment du côté de l'Europe, à faire certains aménagements sur une version du texte qui n'est pas définitive. Et de toute façon, je vais vous le dire de manière très franche, Christophe, c'est que même s'il fallait maintenant valider un texte définitif, il ne serait pas sûr que ce texte soit validé avant le 31 décembre, parce que vous imaginez bien que c'est pas un petit feuillet de 15 pages, mais que c'est des centaines et des centaines de pages pour régir la future relation entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Donc, de toute façon, on ira au-delà de cette date du 31 décembre 2020, mais ce qu'on veut avant, c'est véritablement que sur les trois points qui bloquent, hein, on a parlé de la pêche, mais il y a aussi les conditions de la concurrence équitable et la gouvernance du futur accord, on veut que sur ces trois points, au moins, on ait pu dessiner les esquisses de ce que sera la relation entre le Royaume-Uni et l'Union européenne.
Ouais, ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que est-ce qu'on court le risque d'avoir deux trois décisions glissées un peu sous le tapis comme ça, under the carpet, comme on pourrait dire en Angleterre ou dans le Royaume-Uni, parce que on arrive justement, on enregistre le 18 décembre, quelques jours de Noël, la nouvelle année. Est-ce que il y a quelques petites décisions comme ça qui pourraient passer inaperçues et qui pourraient débloquer la certaine situation?
Alors, je crois que il faut aller voir du côté de l'attitude du Royaume-Uni. On a vraiment l'impression que c'est plutôt du côté du Royaume-Uni qu'on est en train de jouer la montre.
La question sous-jacente de ça, c'est que la montre, elle est jouée du côté britannique.
Exactement. Ah oui. Là, si vous voulez, on a vraiment l'impression que c'est du côté du Royaume-Uni qu'on veut jouer la montre pour glisser justement ces quelques décisions de dernière minute. Mais, encore une fois, du côté européen, c'est ce qu'avait dit le secrétaire d'État aux affaires européennes français, on ne sera pas prêt à ratifier un accord for the sake de ratifier un accord, si vous voulez, juste pour le plaisir de ratifier un accord. Il faut vraiment que ça corresponde aux souhaits, aux velléités des deux parties. Donc, on n'est effectivement pas à l'abri de ça, mais encore une fois, par rapport à un accord provisoire qui doit être trouvé pour le 1er janvier, il est évident que par la taille, par l'importance politique, l'approbation d'un traité par le Parlement européen, ça peut pas être fait en quelques jours. C'est des documents qui font plusieurs centaines et des centaines de pages. Et donc, il va falloir trouver quelque chose justement qui corresponde aux souhaits des deux parties pour le 1er janvier, avant qu'il y ait une ratification définitive. Mais encore une fois, du côté britannique, on joue la montre, et puis du côté européen, on affiche son unité, sa proactivité pour arriver à un accord avec le Royaume-Uni. Mais d'une certaine façon, Christophe, c'est normal, parce que du côté européen, alors évidemment, il serait dans l'avantage de toutes les parties qu'on arrive à s'entendre, mais c'est surtout du côté du Royaume-Uni, qui risquerait de se retrouver isolé, qu'on doit essayer de négocier la meilleure porte de sortie, j'allais dire. Donc, du côté européen, il n'y a aucune raison qu'on brade un accord au rabais. Donc, c'est pour ça que côté britannique, on joue la montre pour essayer au dernier moment de glisser des choses qui seraient avantageuses. Et puis, du côté européen, finalement, la position, elle a été affirmée, elle a été construite. Il y a une unité entre les différents acteurs européens. Et puis, maintenant, on essaie juste de faire en sorte que la relation avec le Royaume-Uni et la future relation se passe de la meilleure façon possible. Ce qu'il faut aussi préciser, Christophe, c'est que on va avoir un accord provisoire le 1er janvier, mais après, la relation et les détails de la relation entre les deux acteurs, cela, ça va être défini dans les mois et dans les années à venir. Ce qu'on veut déjà arriver, et ce à quoi on était censé arriver à la fin de cette année 2020, c'était un accord ou une typologie d'accord sur le Brexit, deal, no deal, quel accord, quelles conditions dans l'accord. Après, sur la relation, ça, c'est une deuxième étape. Et ça, pour l'instant, personne ne se fait d'illusion. C'est quelque chose qui va se construire une fois qu'on aura déjà, si vous voulez, une fois qu'on aura décidé de la manière dont on va divorcer, bah après, en 2021 et au-delà, on définira la relation qui régira les rapports entre l'Union européenne et le Royaume-Uni.
Ouais, tout à fait. Affaire à suivre, en tout cas, de ce côté-là au niveau du Brexit. Si on passe maintenant au Conseil européen, il s'est passé quoi au niveau du Conseil européen, Ursula von der Leyen? On sait qu'il y a eu justement le Brexit qui s'est un petit peu imprimé. Là-dedans, il y a eu un député européen italien, je crois, qui met le côté du blâme pour le Brexit du côté de l'Union européenne plutôt que du Brexit, en disant on n'a pas assez écouté les Anglais et qu'on n'a pas assez vu les visions, on l'a vu anglaise au niveau européen. Il se passe quoi en ce moment au Conseil européen? C'est quoi les dernières nouvelles là-bas?
Alors, on a eu le dernier sommet européen de l'année qui s'est tenu les 10 et les 11 décembre à Bruxelles, où les chefs d'État et de gouvernement européens se sont réunis et ils sont parvenus à avancer sur plusieurs dossiers. Alors, premier élément d'abord, avant de rentrer dans le vif des dossiers, c'est qu'en fait, on est arrivé à un record en termes de Conseil européen, puisqu'on en était au 13e sommet. Et c'est le plus important nombre de sommets dans une année calendaire depuis la création du Conseil européen. Alors, une fois qu'on a dit ça, quels sont ces dossiers sur lesquels les dirigeants, les leaders européens ont réussi à avancer? Alors, il y a deux trois choses. Je mettrai le Brexit de côté, Christophe, malgré les témoignages, malgré les sautes d'humeur de certains députés dont vous avez cité la nationalité il y a quelque temps. Mais principalement, on a réussi à faire des pas extrêmement importants sur tout ce qui concerne la conditionnalité de l'accès des fonds européens au respect de l'état de droit. Alors, juste pour rappeler très rapidement, c'était quelque chose qu'on avait vu ensemble dans des épisodes précédents d'Europa Voice. On avait vu ensemble que les aides qui seraient apportées aux États européens, les fonds qu'ils pourraient mandater, les fonds auxquels ils pourraient accéder. Maintenant, il y avait une volonté européenne de lier cet accès aux fonds au respect de l'état de droit. C'est-à-dire que si vous avez des États qui ne respectent pas l'état de droit et certaines politiques au sein de l'Union européenne, ils ne pouvaient pas accéder à des fonds européens. Et alors, pour l'instant, Christophe, ça bloquait notamment dans deux pays, ça a bloqué pour évidemment pour des pays qui étaient concernés et qu'on avait visé directement finalement par cette politique, ça a bloqué pour la Hongrie et ça a bloqué pour la Pologne. Et puis, et c'est là aussi où on voit l'efficacité de l'Europe et l'efficacité de ces sommets entre dirigeants européens, c'est que finalement on a réussi à entériner ce principe selon lequel le mécanisme de conditionnalité maintenant sera appliqué à partir du 1er janvier 2021. Et donc, ça veut dire que pour déclencher le mécanisme de conditionnalité, il faudra pas seulement, si vous voulez, d'une certaine façon, affirmer que les principes de l'Union européenne sont bafoués, mais il faudra prouver un lien de causalité direct, et là je cite, et dûment établi entre les entorses à l'état de droit constaté et les conséquences néfastes de ces dernières pour les intérêts financiers de l'Union. Donc en fait, pourquoi, c'est ça qui est intéressant peut-être d'analyser avec nos auditeurs, Christophe, pourquoi ça a marché, c'est que d'un côté, l'Union européenne a réussi à venir là où elle voulait en venir, c'est-à-dire créer un lien entre accéder à des fonds européens et le respect de l'état de droit, mais la Hongrie et la Pologne ont réussi aussi à faire valider qu'il ne fallait pas simplement que l'Europe dise bah, « Tenez, vous ne respectez pas l'état de droit, vous n'avez pas le droit à ces fonds », mais il va falloir aussi prouver qu'il y a un lien de causalité directe et dûment établi entre les entorses à l'état de droit constaté et justement les conséquences que ça peut avoir. Donc en fait, si vous voulez, ça va être plus contraignant pour l'Union européenne de prouver qu'il y a des entorses à l'état de droit, mais le principe, il est acté, et à partir du début d'année prochaine, au moins de manière théorique, un État européen qui ne respecterait pas l'état de droit et pour lequel on prouverait qu'il n'y a pas de respect de cet état de droit ne pourrait plus accéder à ces fonds européens. Donc c'est une véritable avancée majeure. Maintenant, reste à valider, à voir si on va s'en tenir simplement à la théorie ou si cette doctrine, nouvelle doctrine, va être appliquée et qu'on va voir les premiers États européens refuser d'accéder à certains fonds pour non-respect de l'état de droit.
Ouais, c'est très, très, très important, ça, d'ailleurs, parce qu'on sait qu'il y a quelques tensions, hein, surtout au niveau de l'ancien bloc de l'Est, par là, au niveau du continent. Est-ce qu'on a discuté, bon, bien entendu, on a discuté du coronavirus, on va y venir dans quelques instants. Avant de parler de ça, il y a aussi tout ce qui est autour des GAFA. Ça chauffe en ce moment, la décision européenne au niveau des GAFA. Est-ce que ça restera aussi un des grands sujets de 2020?
Ah oui, tout à fait, Christophe. La question de la... Encore une fois, c'est intéressant parce qu'à travers les GAFA, c'est encore la question de la souveraineté qui revient. C'est de voir à partir de quel moment l'Europe, elle est capable de se constituer en bloc et d'être souveraine face... Et c'est là où la question des GAFA, elle est intéressante, pas simplement face à des acteurs étatiques. Ça, c'est évidemment important. Et on pense par exemple à la question de la Turquie. Hein, il y a aussi tout un mouvement, et ça a été acté au dernier... Conseil européen, il y a tout un mouvement proactivement aimerait bien que on ait une position un petit peu plus proactive vis-à-vis de la Turquie, notamment par rapport à des forages illégaux qui avaient été réalisés dans les eaux territoriales du Chypre. Donc il y a une volonté de voir une souveraineté, une unité européenne face à d'autres acteurs étatiques extra-européens. Mais sur la question des GAFA, c'est aussi de voir comment l'Europe peut avoir une certaine souveraineté vis-à-vis d'acteurs qui ne sont pas étatiques. Alors, la plupart sont des acteurs, là notamment américains, mais sont des acteurs qui sont non étatiques. Donc la position, elle est différente. Et puis, ce qui est aussi différent, c'est que finalement, on se joue moins des frontières quand on est face à un acteur non étatique. Et par rapport aux GAFA, pour élargir un petit peu la focale, c'est pas simplement la question des données. Il y a la question des données, il y a la question des data. À qui appartiennent ces data? Comment on monétise ces data? Mais il y a aussi la question de la souveraineté fiscale. Quand vous avez des acteurs dont un siège social est basé dans un pays européen ou très favorable à la fiscalité, bah comment est-ce que vous expliquez que Google, par exemple, ne paye pas un montant ou arrive à s'extraire du paiement d'un montant important sur l'impôt. Donc cette question des GAFA, j'allais dire, elle est importante, mais contrairement à celle de l'état de droit, par exemple, elle n'a pas été tranchée au dernier sommet européen. C'est pour nous, Europa Voice, ça va faire partie des dossiers à suivre, si vous voulez. Une autre question, Christophe, qui a été tranchée, qui justement était liée à cette question de l'état de droit, c'est l'adoption du prochain budget pluriannuel de 2021 à 2027. Parce qu'il fallait que tous les États soient d'accord. Et puis là, comme on a réussi à obtenir une position commune sur cette question de l'état de droit, bah, on a aussi réussi à obtenir une discussion concluante, pardon, sur ce budget pluriannuel et avec un accord politique qui a été trouvé par les équipes de négociation du Parlement européen et la présidence allemande. Donc, on va avoir un budget fixé à 1090 milliards d'euros qui sera, et c'est important de le préciser parce qu'on voit que c'est encore toujours très prégnant d'Europe, qui sera adossé au déjà plan de relance de 750 milliards d'euros qui avait été évoqué un peu plus tôt. Et puis, je dirais sur cette question du sommet européen, en plus du budget, en plus de la question de la conditionnalité des aides au respect de l'état de droit, il y a aussi l'objectif de réduction de 55% de réduction des émissions carbone à horizon 2030 qui a été approuvé. Alors, pour l'instant, on est encore une fois dans un objectif, dans quelque chose de très théorique, mais symboliquement, c'est important, Christophe, parce qu'on est 5 ans après l'accord de Paris et on est 1 an après la présentation du pacte vert pour l'Europe. Donc, on met un jalon de plus sur la route d'une Europe plus tournée aussi vers l'environnement.
Ouais. Et la dernière question, dernier sujet de cette Europa Voice, c'est bien entendu le coronavirus et bien entendu le vaccin. On sait où on en est. Les Britanniques ont pu avoir leur vaccin un peu avant tout le monde. C'est vrai qu'il y a les Russes aussi qui ont commencé un vaccin de leur côté. Et l'Europe qui a pris une décision, l'agence du médicament devrait rendre une décision. On parle du 21 décembre. C'est Jean Castex, le premier ministre français, qui l'a dit. Et dans la foulée, les pays donc pourront utiliser le vaccin Pfizer-BioNTech. C'est les dernières nouvelles au niveau européen. C'est important cette campagne de vaccin. Est-ce que c'est important que cette campagne de vaccin médiatiquement débute en 2020 et non pas en 2021?
Alors je crois, Christophe, ce qui est important surtout, c'est que les États européens montrent un petit peu plus de coopération et pour le coup d'unité qu'ils ne l'ont fait au moment de la gestion de la première vague. Rappelez-vous, hein, quand on avait commencé à analyser la position européenne face à la première vague de coronavirus, alors bien sûr, il y avait la nouveauté de la chose, mais ça n'avait pas du tout donné l'image d'une Union européenne, et on avait l'impression d'avoir une opposition entre finalement États membres, alors évidemment pleinement souverains, mais qui ne donnait pas, encore une fois, l'impression d'appartenir à un projet politique commun. C'était une impression qui avait été déjà beaucoup plus encline à la coopération au moment de la deuxième vague, hein. On avait vu beaucoup plus de coopération entre les acteurs européens. Et puis là, j'allais dire, je ne sais pas si c'est tellement le fait que ça commence en 2020 qui est important, mais que on n'ait pas l'impression qu'il y ait certains pays européens qui soient laissés derrière par rapport à cette campagne de vaccination. Ça, je crois que c'est un premier élément qui est important. Alors au début, on avait parlé d'un jour commun à toutes les campagnes de vaccination à travers les pays européens. Là, je crois qu'on est plutôt sur une fourchette de 2 ou 3 jours, mais je crois que c'est véritablement ça qui est important si on prend juste le point de vue européen. Après, votre question de 2020, moi, je crois que dessous, c'est surtout par rapport à ce qui se passe déjà au Royaume-Uni. Est-ce que c'est important que l'Europe vaccine aussi en 2020 parce que le Royaume-Uni a commencé à vacciner en 2020, à montrer l'exemple avec la reine d'Angleterre, avec un habitant dont le nom extrêmement symbolique, William Shakespeare, je ne sais plus où en Angleterre, s'était fait vacciner. Moi, je crois comment, Christophe ? Je crois vraiment que on n'est pas tellement par rapport, on n'est pas à 10 jours près parce que les Britanniques l'ont fait il y a quelques jours. Je crois que c'est vraiment plutôt montrer que voilà, il y a une agence du médicament européenne, il y a une décision qui va être prise sur un vaccin, notamment, vous l'avez mentionné, le Pfizer BioNTech, et c'est que voilà, on voit que l'Europe a pris la mesure et est capable, de la même manière qu'elle a su, encore une fois, rebondir au moment de la deuxième vague, que l'Europe soit capable de mener une campagne de vaccination cohérente, efficace et fasse preuve d'unité sur ces questions-là. Je crois que c'est ça véritablement l'enjeu en termes de politique et de communication politique pour Ursula von der Leyen et les dirigeants européens.
Absolument. Et puis la dernière bombe à laquelle on ne va pas forcément élaborer parce qu'on n'a pas vraiment plus d'informations que ça, mais on sait que Emmanuel Macron a été testé positif au Covid-19. Donc Jean Castex, le Premier ministre, est à l'isolement. Il est négatif pour l'instant. Et je dis une peut-être potentielle bombe, puisqu'en fait, il y avait le Premier ministre portugais et le Premier ministre espagnol qui ont rencontré Emmanuel Macron. Ils ont tous les deux été mis à l'isolement. Ça peut se développer dans les jours à venir. Ça peut être intéressant à suivre.
Oui, alors après, je crois que surtout ce qui est intéressant, ce qu'il va falloir suivre, mais alors sans lire dans les boules de cristal, c'est que si on remonte un peu dans le temps avec la période d'incubation, on arrive à quelle date ? On arrive quasiment au niveau du Conseil européen. Donc, je ne pense pas que tous les dirigeants européens présents au Conseil européen vont se mettre à l'écart. C'est quelque chose qui va être à surveiller, mais ça peut vous montrer aussi comment ce genre de choses peut aller vite. Moi, je crois que surtout, là, si on parle juste du cas français, je crois qu'il va falloir faire deux choses du côté d'Emmanuel Macron. Et là, je prends ma casquette plutôt d'analyste politique interne. Je crois qu'il va falloir vraiment faire la pédagogie autour de pourquoi est-ce qu'un président de la République, lui, est capable d'avoir des dîners de travail à plus d'un certain nombre de personnes rapprochées, etc. Honnêtement, je crois que c'est faire preuve de beaucoup de démagogie de dire que le président de la République ne respecte pas les consignes qu'il demande aux autres de respecter. On sait évidemment que un président de la République, il peut pas s'appliquer un couvre-feu à 20h, 21h. Il peut y avoir des urgences, il peut y avoir des réunions de travail, mais ça demande de la pédagogie de la part du gouvernement et de la part d'Emmanuel Macron. Donc c'est à voir comment ils vont se dépatouiller dans les prochains jours. Et puis la deuxième chose, Christophe, pour rassurer nos auditeurs, ou en tout cas pour dire, c'est que ces cas-là, alors pas le cas de coronavirus, mais les cas d'empêchement d'un président d'assurer sa fonction de président de la République, tout ça c'est prévu par la Constitution. Encore une fois, c'est pas lié au Covid, hein, puisqu'un président peut être empêché de pratiquer l'exercice du pouvoir, mais donc de toute façon, les mécanismes sont institutionnellement prévus en France. Et notamment le président du Sénat, Gérard Larcher, etc. Bon, enfin, voilà. Donc, pour aussi rassurer nos auditeurs s'ils étaient inquiets, tout ça c'est prévu par la Constitution française, et il n'y aura pas de vacances du pouvoir à défaut d'avoir des vacances de fin d'année.
Absolument. Affaire à suivre parce que Gérard Larcher, il est cas contact également. Mais bon, affaire à suivre. Merci Nathanaël.
Merci beaucoup Christophe.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.